du livre des Actes des Apôtres. Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant romain voulut savoir à quoi s'en tenir sur les accusations des Juifs contre lui. Il lui fit donc enlever ses chaînes, puis il convoqua les chefs des prêtres et tout le grand conseil, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Paul se rendit compte qu'il y avait là le parti des Sadducéens et celui des pharisiens. Alors, devant le conseil, il déclara d'une voix forte : « Moi, frère, je suis un pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. » À peine eut-il dit cela qu'une dispute éclata entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens prétendent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens y croient. Cela fit un grand vacarme. Quelques scribes du parti pharisien interviennent pour protester vigoureusement. Nous trouvons rien de mal chez cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. La dispute devint très violente et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite. Je suis inébranlable.
Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption.
Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, moi, mon seul espoir.
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices.
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.
Seigneur, Dieu est amour, et si nous demeurons dans l'amour, c'est en Dieu que nous demeurons. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur,
selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi, toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
L'évangile du Seigneur s'inscrive dans nos âmes, qui nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia.
C'est la méditation proposée par le Magnificat de Thomas Merton. Et Thomas Merton est très à la mode, ce Thomas Merton. Il est mort en 1968. C'est un Américain, trappiste. Donc, mais les trappistes américains ne sont pas du tout comme les trappistes français. Ils rentrent au monastère, et puis à partir du moment où ils sont rentrés au monastère, on n'entend plus jamais leur voix, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur du monastère. C'est fini, les trappistes, on ne dit plus rien. Tandis que Thomas Merton, c'était un Américain. Donc pour faire taire un Américain, même trappiste, c'est très difficile. Alors ça donne Thomas Merton, c'est extraordinaire. C'est profond, c'est... Et pour l'unité, c'est du silence de la trappe. C'est Saint Bernard qui est le fondateur des cisterciens, des trappistes. Du fond de la trappe, c'est ça. Hein. Quand on pense, moi je sais, j'ai fait mon noviciat là, à l'Erin, c'est cette spiritualité-là. Pas un mot, jamais. Jamais, jamais. C'est extraordinaire. Et voilà, et ça fait maintenant on peut dire des milliers d'années que ça dure comme ça, les races. Ouais. Mais dans les trappes, c'est ça. Hein. Ces jeunes qui rentrent là. Hein. Voilà. Alors on dit des trappistes parce que allez, la lumière dans la trappe, c'est fini. Hein. Tu te mets dans un cimetière, c'est pareil. Hein. Et c'est effectivement, c'est ça. Mais c'est beau. C'est extraordinaire parce que là, on se retrouve vraiment sur la terre quand on est chez eux. On se retrouve sur la terre. On est enfermé, et, si je puis dire, à l'intérieur d'un silence, mais contagieux, 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 très 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 intense, très vivant, un silence très 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 très... C'est comme si le silence, vous voyez, la parole, c'est comme le soleil, elle rayonne comme ça, elle déborde, elle s'exprime. Tandis que le silence, lui, c'est une espèce de trou noir, hein, mais au sens très très fort de Dieu, Dieu. Jésus, c'est un trou noir, Jésus. Dans le silence de Jésus, tout vient. Le monde entier est sur lui. Et dans ce silence, dans cette... Mais un silence très très fort, c'est un silence ébloui, quoi. C'est un silence... C'est très dur de sortir de races. C'est très dur de revenir dans un monde faux. Quand on est à l'Eras, voilà. Alors Thomas Merton a été très certainement très 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 alors de chez très jeune, mais les règles, je veux dire, aux États-Unis, c'est quand même pas les mêmes règles qu'en France. En France, il y a quand même le pape Saint Léon le Grand, les grands papes. Fait que quand même en France, la trappe reste la trappe. Saint Bernard reste cistercien, reste. C'est les saints sont là, les saints de la terre. C'est pas du tout pareil que les chartreux. Parce que les chartreux, finalement, comme vous, ceux qui ont vu le film où on voit ces visages de ces pères chartreux là, les chartreux vivent un peu isolément les uns des autres, tandis que la trappe, on vit ensemble, tout le temps. On mange ensemble, on dort ensemble, on prie ensemble, on travaille ensemble. Et il n'y a pas un mot. C'est un peu comme toutes les cellules du corps de Jésus crucifié qui s'effacent dans le silence de l'offrande. Toutes ces cellules qui sont ensemble à vivre le même mouvement. Et on voit bien, de toute façon, on ne peut pas ne pas sentir, même si on est insensible. Le plus insensible, quand il vit là, il voit bien que le monde dépend de ces gens-là. Le monde dépend des... Je ne dis pas que le monde dépend des trappistes, mais oui, le monde dépend, oui, des saints qui vivent. Parce que Jésus vit de manière qu'il n'y ait plus rien qui sorte de lui que le Saint-Esprit. Puis, voilà. Et donc il n'y a plus la parole, le Verbe de Dieu ne s'exprime plus. C'est Saint-Esprit, c'est l'unité, c'est dans l'unité. Et on voit très très bien que là, on est enfin arrivé sur notre terre. On respire enfin là. La terre, moi je me rappellerai. Ça fait longtemps que je suis sorti de les Reims. De toute façon, j'étais pas. On m'avait demandé d'y faire mon noviciat pendant 6 mois. J'ai fait mon noviciat. Après, donc on m'a demandé. Mais c'est pas moi qui suis parti. Mais de partir de. Je suis parti après en ermitage. Mais c'est le moment fort de ma vie. Saint Patrick, qui a été l'apôtre d'Irlande, il a passé 6 mois à les Reims aussi. il y a 1500 ans. Et ça a fait le patron des évêques, des apôtres de l'Église catholique. On ne peut pas quitter l'Église lorsque elle est arrivée. Il y a une chose qui m'a frappé là. Ces jours-ci, vous avez été à la messe, là, ou si vous n'avez pas été à la messe, vous avez lu le texte de la messe, bon, et vous avez vu que on voit Saint Paul là, qui va chez les Éphésiens. Les Éphésiens, mais Éphèse, attendez, Éphèse, mais il y avait Saint Jean qui était à Éphèse. Hein. Il dit, mais Apollo s'est passé chez vous. Pendant 3 ans, et Saint Paul est resté à Éphèse. Pendant 3 ans. 3 ans. Mais Marie était à Éphèse, la Sainte Vierge. Et Saint Jean, mais était à Éphèse. Pas un mot. C'était un des apôtres. Rien. Je sais pas, c'est que quand on lit les actes des apôtres, c'est frappant. Et puis la lettre aux Éphésiens, c'est frappant. Mais donc ça veut dire que quand on raconte que Marie et Saint Jean étaient à Éphèse, c'est forcément une erreur historique. La preuve, la lettre aux Éphésiens. Mais tu crois quoi, toi? Tu crois que dans la maison de Saint-Jean, de Marie, cette espèce de trappe, là où la véritable terre de tous les temps, de toute la terre était présente, tu crois que si elle n'était pas silencieuse, hein, c'est que c'était pas eux qui devaient être là. Vous comprenez? C'est frappant, c'est vraiment frappant. Oh, tu vois Saint Paul, il dit, bon, attendez. Et là, c'est quand il a quitté les Éphésiens, c'est là qu'ils se sont mis à genoux, qu'ils ont pleuré. Si on ne va plus te voir, je ne vous reverrai plus jamais. Alors tout le monde pleure. Parce que Saint Paul s'en va et tout. Hein, c'était la lecture quoi d'hier ou d'avant-hier, je crois, quelque chose comme ça. Le silence de Marie à travers ça. Devient de Saint Jean, enfin cette espèce de, ils étaient plusieurs là, hein, ils n'étaient pas que deux. Il y avait une, tout se jouait là. Et dans toutes les communautés chrétiennes du monde, pas seulement celle d'Éphèse à côté, le Saint Esprit suscitait la foi, le martyr, le don, le ciel dans la terre. Hein. C'est là où la terre est tout à fait elle-même. C'est Marie, quoi. La vie du cistercien, c'est une vie de prière, c'est une vie de contemplative, c'est une vie d'oraison, c'est une vie de transformation. C'est pas toi qui vas être transformé, c'est la création qui va passer par les 7 grands moments de la transformation surnaturelle à travers le fait qu'il n'y a plus aucune distance entre ta vie et la foi. C'est la transformation du monde. Alors, la terre devient normale. Elle est belle, la terre, à ce moment-là. Et alors, Thomas Merton, le mystère pascal, nous introduit dans la foi au Christ. Le mystère pascal de la foi. La foi, c'est une lumière surnaturelle qui nous envahit et qui établit en présence réelle de lumière réel, le passage de la terre au ciel et du ciel à la terre. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Ce passage de l'incarnation et puis la disparition, l'effacement de Jésus, dans la Pentecôte, est à l'intérieur de la lumière sonateur de la foi qui nous envahit. Comme la lumière sonateur de la foi nous envahit, unanimement, faut toujours rajouter unanimement, c'est pas individuellement, unanimement, aussitôt, il n'y a plus que l'incarnation. Nul n'est descendu du ciel sinon celui qui est monté au ciel, nul n'est monté au ciel sinon celui qui en est descendu. Et puis l'effacement de Jésus dans la Pentecôte. Les deux ensemble, il n'y a plus que ça en nous. Il n'y a plus que ça. Unanimement. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit, mystère pascal, c'est le renouvellement de la présence réelle, lumineuse de Jésus-Christ qui détruit le royaume de la mort à l'intérieur de nous. Quand la lumière sonateur de la foi est en nous, le royaume de la terre que nous connaissons a disparu. C'est le Christ émergent, vivant et glorieux de son tombeau dans nos âmes. Dans nos âmes, le Christ se manifeste à nous en nous apparaissant au plus profond de notre silence intérieur, spirituel, dans notre esprit substantiel. Et cela, il le fait incessamment, comme apparaissant à ses apôtres dans le cénacle, toute porte verrouillée, il vint leur annoncer le message de la paix céleste qu'il vit à la droite du Père. Dans l'envoi du Saint-Esprit, et voilà pourquoi il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Mais c'est de l'intérieur, vous voyez. C'est génial ce qu'il dit Thomas Merton. De toute façon, c'est pas seulement génial, c'est se recentrer toujours dans la foi. La foi, nous l'avons. Mais brûlée par l'Esprit Saint, pas tout le temps. Voilà. Pour ça, bien sûr, il faut donner sa vie. C'est pour ça que les trappistes donnent leur vie. Ils ont 18 ans, ils arrivent. Malheur à un jeune homme qui va faire une retraite à l'Éreins. Parce que, attention, il risque de ne plus jamais en ressortir. Malheur pour ceux qui vivent du royaume de la mort. Mais pour lui, c'est pas un malheur, c'est une béatitude. Si tu ne vis pas cette béatitude, mais tu vas te passionner pour des choses qui vont occuper ton temps et ta vie. Et du coup, tes préoccupations aussi. Le royaume de la mort. On est créé comme ça par Dieu pour donner notre vie. S'y enfoncer, s'y établir, y demeurer. Et les moines, j'allais dire trappistes, ils sont là pour ça, pour nous rappeler que c'est ça, le fond de notre existence. C'est ça. Même si on doit faire autre chose, on peut quand même mettre au monde des enfants. On peut aussi faire des choses inutiles, mais c'est pas ça le fond de notre existence. Le fond de notre existence, c'est la vraie vie. Ils vivent extérieurement ce que nous vivons intérieurement. Tous ensemble, la maman qui a des enfants, le jeune qui cherche à comprendre. Le désespéré qui ne comprend plus rien. La petite. Qui meurt à 18 ans. Avant-hier, tiens, petite fille. 18 ans. N'a plus rien. C'est l'enfant qui meurt dans le sein de sa mère. Le roi de France qui essaie de faire un discours à la télévision cet après-midi. y a le baptême qui les réunit quelque part. Peut-être pas le baptême pour tout le monde, mais en tout cas le baptême en puissance déjà. Tout le monde est baptisé. Jésus a baptisé tout le monde dans sa, dans la nature humaine qu'il a assumée en entier. Et ce qui fait l'unité de tout ça, ce qui fait notre unité ensemble, unanimement, c'est la foi. La lumière, ce naturel de la foi. Et la foi, c'est Jésus qui disparaît en jaillissant. Il jaillit, il s'incarne et en même temps il disparaît. C'est ensemble le mystère, on appelle ça le mystère pascal. Il jaillit, il est vivant, il disparaît. Alors il n'y a plus que le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qu'on vit. On est 60, je sais pas combien, on est 7 milliards, c'est ça? On est 7 milliards en ce moment sur la Terre, de gens. Ça, c'est ce que vit tout le monde. Quand Marie, elle vit ça avec Saint Jean, au moment de l'Assomption, par exemple, la veille de l'Assomption, ils vivent ça très très bien dans l'unanimité. Et c'est pas leur unanimité à eux, c'est l'unanimité de tout ce qui existe. Alors, l'unité se fait, ils sont un, comme le Père est un avec Dieu. Dieu le Père est un avec Dieu. Il n'y a pas de distance entre Dieu et le Père. Il n'y a pas de distance entre Saint-Esprit et Dieu. Il n'y a pas de distance entre l'unité du Père et du Fils et Dieu. Et il n'y a pas de distance entre la foi et Dieu. Il n'y a aucune distance entre la foi et Dieu. Aucune. C'est donc très extraordinaire. Quand Dieu crée, il crée dans l'accomplissement de tout. Et comme il crée dans l'accomplissement de tout, on est dans l'unité. Et de vivre de cette unité, c'est très important. C'est très grand, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on aurait la tentation de dire « Moi, j'essaie d'être fidèle à ma foi. » Vous voyez, « Moi, je essaye d'être fidèle à ma foi. » Ça fait 7 erreurs en une seule phrase. Parce que c'est trop. C'est pas « Moi, je » et « Ma foi. » Vous voyez, il n'y a pas comme si la foi, c'était la tienne. C'est pas... Non, 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 il y a une unité. Il y a une unité. Il y a une unité. Il y a une seule Immaculée Conception. Il y a une seule transsubstantiation. Il y a une seule spiration. Une seule fois, on le dit dans le Credo, une seule fois, un seul baptême. Et c'est cette unanimité, on a été choisi pour cette unité. Voilà, c'est l'évangile d'aujourd'hui, hein, l'évangile qui soit un, le Père et Dieu. Nous sommes un. Dieu en du dedans du Père et le Père du dedans de Dieu qui est, pour que eux aussi soient un puisque moi je suis en eux et le Père en Dieu en étant moi voilà donc on est un cette unanimité dans l'unité permet au silence d'exister parce qu'un silence qui n'est pas rempli de ça c'est pas un silence c'est du vide c'est rien. C'est zéro, si vous voulez. C'est... Alors le silence existe enfin. Et c'est admirable. Le fait que nous, on a été choisis pour vivre ça en le comprenant. Alors que la multitude vive ça sans le comprendre. C'est vrai. Mais Marie, l'Immaculée, elle vit ça sans le comprendre aussi, parce qu'elle est tellement unie à ceux qui vivent sans le comprendre, que quelque part elle vit sans le comprendre, mais pourtant elle sait. Parce que Dieu sait, et que la science, la connaissance de Dieu dans l'unité, c'est la même connaissance de Dieu dans l'unité qui se trouve dans l'unité spirituelle de l'Esprit Saint qui est en Marie. Et qui est du coup dans toute le silence de la création. Quand on dit le silence de la création, c'est un silence vivant, c'est le silence de l'unité vivante de Dieu avec Dieu. Et il y a une attraction dans ce silence. Vous sentez bien? Une attraction. Et on est déposé, attiré, déposé, stabilisé, enfoncé, disparu dans cette attraction. Le Père nous attire, Dieu nous attire. Marie, l'unité, la foi est une attraction profonde dans l'accomplissement de Dieu. Le royaume de la mort n'existe plus. Voilà. C'est ce que je pensais avant-hier quand je disais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Saint Paul, Apollos, Saint Paul, Éphèse? Qu'est-ce qu'il nous raconte dans son épître là? Vous voyez comment on peut lire la Bible sans l'Esprit Saint? Sans la foi. Alors la Bible dit, ben, oui, bon, sur le plan historico-critique, voilà, c'est Saint Paul qui a fondé le christianisme en Asie. C'est Saint Jean qui était l'apôtre de l'Asie. On peut très bien lire. On ne comprend pas que ce qui est fait expliquer le sens de la parole. Du Verbe de Dieu, s'exprimant dans Jésus vivant et entier accompli. C'est le Verbe, et le Verbe est silencieux. Et justement, l'Épître aux Éphésiens est là pour nous prouver que tout démarre de Marie. Et c'est dans son silence que ça se fait. Et l'unanimité du Saint-Esprit en elle. Unanimitaire, être persévérantaire. Comme Maria, apostolie, orabante. C'est l'unité. Ah, il faut quand même que j'aille lui dire quelque chose. Hein. Ah, il faut quand même que je le dise. Ah, t'es sûr que c'est ça qu'il faut faire? Ah, ça par exemple. Quand même que cette personne-là, elle comprenne. Hein. Bon, très bien. C'est pas le royaume de l'unité. C'est pas le royaume du silence. C'est pas le royaume de la foi. Mais la joie de savoir que on est choisi pour servir en présence du silence. Ton nutriant, mais fécond, lumineux, pacifique, marial, source, principe, dans le principe et le Verbe. Le Verbe est à l'intérieur de Dieu et le Verbe est Dieu. Et dans les ténèbres, à tous ceux qui l'ont accueilli, il leur donne pouvoir devenir lumière. Engendré éternel de Dieu, le Père. Et cet engendre, le fait qu'on soit engendré éternel de Dieu, le Père, ça c'est notre... C'est comme ça qu'on demande pardon. On demande pardon. En disant oui à l'unité, dans la lumière. Oui à la prière. C'est pas oui à la prière, mais c'est oui à l'unité. Ça fait vivre toutes les fleurs, ça fait vivre toutes les abeilles, ça fait vivre toutes les étoiles, ça fait vivre tous les anges, ça fait vivre toute la vie surnaturelle qui doit se répandre dans le monde intérieur de tous les existants. Ça doit faire vivre de manière brûlante le silence vivant de l'Église, du ciel et de la terre. Et nous sommes choisi pour dire oui et être la source unique de cette émanation. C'est beau la foi de l'Église catholique. C'est pas seulement parce que c'est l'Église catholique. Intérieur, vous voyez. Là, vous allez à l'Eras, vous n'entendrez jamais un sermon comme ça à l'Eras. Pas besoin, parce qu'ils vivent ça. Ah oui, c'est dans cet état-là qu'on demande pardon, parce que on dit oui à ce don parfait du fait qu'on a été choisi. Quelqu'un qui a la vocation, il rentre, il dit oui, et puis voilà, et puis après. Le monde entier en nous se réjouit. Je leur donne la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existât. Je la leur ai donnée. Et à nous. De sorte qu'ils sont un comme nous. Une prophétie, une espérance. C'est la foi. Il me l'a donné, quoi. C'est, on est choisi pour ça. On dit oui. Et alors il y a ce jaillissement. C'est ça, j'aime bien ce que dit Thomas Merton. Et il marche toujours par jaillissement, invasion, silence. Jaillissement, invasion, Thomas Merton, c'est ça. Jaillissement de la gloire d'avoir la création du monde. Dieu et le Père et Dieu. Dieu, c'est Jésus. Hein. C'est le Verbe. Et cette gloire, cette victoire de l'amour surtout, il nous la donne. Nous avons été choisis pour. Et c'est un don. C'est marrant parce que le pape, il disait, quand Dieu nous a créés comme un. Il a fait de nous une existence, un mystère. Il nous a fait don. Je ne sais pas comment on dit en polonais, mais. Dieu le Père, le Créateur, nous a créés comme don. Le critère oblique dit don de la création de Dieu dans le mystère de l'innocence de l'homme, commençant dans les mains de la Créateur de Dieu comme don. Et oui, don, alors, don de quoi? On est la manifestation, c'est ça notre signification intérieure, c'est ça notre vie intérieure, c'est cette gloire qu'il y avait entre le Père et le Fils à cause de leur unité. Et ça, c'est dans le silence de... Oh! Dieu ne nous a pas fait inséparément de lui. C'est pour ça, ça fait dans l'unité avec lui. Et cette unité avec lui n'a jamais disparu. Jamais. Ça crée comme un don. La foi permet à ce don de communiquer, d'engloutir, d'aspirer irrésistiblement ce don à toute la création spirituelle, le monde angélique, à toute la création de la matière, à toute la création, à toutes les métaphysiques des instants, des durées et des éternités. Sans aspirer comme ça. Voilà, ça oui, là on a une fonction de source. De l'unité, de ce point de vue-là. À cause de l'unanimité. Et c'est ça l'Église catholique. Tu ne peux pas faire ça séparément de ton prochain. Tu ne peux pas faire ça séparément de ton prochain. L'unanimité. C'est pas individuel. Tiens sur lui. Qu'est-ce qu'il a une foi formidable. C'est un saint. Imbécile. Bien sûr que non. Voilà, c'est ça. Le Père et moi, nous sommes un. Alors vous me direz, mais la foi ne rajoute rien, puisqu'on a cette unité comme don dès le départ. Attends, la foi rajoute ceci, c'est que Jésus peut s'incarner dans l'acte de prédilection, prévenance de miséricorde éternelle de Dieu sur Marie, à l'intérieur de l'Église, à travers toi. Oui. Bien sûr. Alors là, oui, et il y a un mystère d'unité qui permet à tous les éléments de la création de venir librement s'engloutir et vivre de cette même gloire que celle dans laquelle tu as été donné. Et ça, c'est l'œuvre de la foi. Opus Dei, l'œuvre, la transformation de l'univers. L'union transformante implique la transformation de l'univers. c'est pas moi qui se transformais. Je suis arrivé à la sixième demeure de la transformation divine. Non, la transformation divine, c'est une transformation de la foi, c'est une transformation catholique, c'est une transformation d'unanimité, c'est la transformation de l'un. Et qui assume, qui on devient source, c'est toute la création qui est tout à fait elle-même à travers la foi de Marie. Tout à fait elle-même. On a été choisi pour ça, on n'a pas été choisi pour être Moïse, Samuel ou le prophète Daniel. Même si on aime beaucoup le prophète Daniel. Non, on est là pour être vraiment ce foyer, ce principe. De l'au-delà de la création, dans l'un. Vous avouerez avec moi que c'est quand même génial que Saint-Esprit ait suscité les trappistes. Hein? Il n'y aurait pas les trappistes, on serait moins bien. Si on était tous des croisés, c'était à l'Hérins à un moment, je crois que c'est la seule fois que toute l'histoire de l'Hérins, ça ne s'est jamais reproduit depuis, ça ne s'est jamais reproduit avant, ils avaient fait venir la radio France Musique, France Musique ou France Culture, je ne sais pas.
France Culture, ça a dit, je crois, une fois.
Alors ils étaient venus, ils avaient mis tous leurs micros dans le monastère. Le seul moment où on entend la voix, c'est quand ils chantent le psaume. Alors ils chantent le psaume, on chante le psaume. Hein, l'office de... Ah, c'était là, ils avaient eu la permission de rentrer dans la clôture, c'est-à-dire dans le moment où on chantait compli. Bon, moi j'étais là. Silence toujours, on est habitué au silence. Hein. Non, bon, alors, un silence, le psaume. Et puis à la fin, il y a la bénédiction... Voilà, en latin, bon, peu importe. Et puis, toutes les bougies sont éteintes. Une bougie à la Sainte Vierge, là-bas. Et puis un silence. Un silence normal. Parce qu'on vient de... Et tous les moines qui sont là, des 70, bon, bah, on est avec la Sainte Vierge, dans l'église de la nuit. Et eux, ils étaient là avec leur micro. Ils disent, où est-ce qu'on est là? On chante Salve Regina. Salve. Tous les moines ensemble, unanimement. Là. Et puis, Salve Regina s'arrête. En dulcis virgo Maria. Et le silence. Et normalement, le silence, à nouveau, on retrouve le silence. Pour nous, c'est normal. On attend que le Père Abbé fasse. Et à ce moment-là, il s'en va et tout le monde s'en va en silence. Mais entre la fin de Salve Regina et bon, le Père Abbé, bon, Don Bernard de Théris, me frappe comme ça, un silence. On n'entendait rien. Et les gens qui étaient venus avec la radio, certainement peu habitués, qu'ils n'entendaient que leur respiration à eux. Alors, ils se sont dit peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête de respirer. Quand ils arrêtaient de respirer, ils entendaient le silence des moines. Je veux dire, ils entendaient le silence surnaturel, lumineux, universel, de la gloire dont ils vivaient. Il y en a trois qui sont. Il y en a deux ou trois quand on les a entendus. Ils ont interrompu le silence. Ils sont tombés. Vous savez, ils n'avaient jamais, 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 jamais vu ça. Jamais compris, jamais entendu, jamais perçu, jamais imaginé que cette gloire pouvait exister. Et alors, on les a entendus, on a entendu craquer, quoi. En sanglots, quoi. Des gens qui étaient habitués, hein. Les médias, culture. Alors, donc, même Thérèse a fait comme ça. Allez, on s'en va, on va la laisser. Alors, radio. Alors, après, au chapitre, le père Abbé disait, je pense que c'est dans l'immanence que nous devons vivre du silence. Je pense. C'est ça notre expérience. Rendons grâce à Dieu, je pense. Pour la confiance qu'il nous fait, je pense. Et on est parti se coucher. Parce que le Père Abbé donne toujours un mot avant de se coucher. C'est merveilleux. Excuse, mais c'est merveilleux. Mais même s'il y avait la Troisième Guerre mondiale, je m'en fous. Puisqu'il y a la foi. Ah, pardon, Seigneur, mon Dieu. J'ai pas été très trappiste, là. Hein.